Le journal Yves Decamp, bonsoir.
Bonsoir. Jour de deuil au Sable d'Olonne au lendemain de la mort de trois sauveteurs de la SNSM partis au secours d'un pêcheur dont le corps n'a pas été retrouvé. Leurs collègues et amis rescapés, saisis par l'émotion, ont raconté le récit du naufrage. Nous les entendrons. Encore une très faible mobilisation pour le 30e épisode des Gilets jaunes, mais les violences ont été proportionnellement fortes à Montpellier où plusieurs centaines de Black Blocs ont été signalés. Une quinzaine de personnes ont été blessées. Pour consolider l'alliance Renault-Nissan, le ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui a tiré les leçons du projet avorté avec Fiat, se dit prêt à réduire la part de l'État au capital du constructeur français. Dans ce journal également, Donald Trump qui jubile après l'accord conclu avec le Mexique sur l'immigration. Suce au plastique pour la goélette scientifique Tara, qui part de Saint-Malo tout à l'heure pour inspecter les fleuves d'Europe. Une finale Nadal Team à Roland-Garros demain. L'Autrichien numéro 4 mondial a battu Djokovic en demi-finale au bout du suspense. Chez les femmes, c'est l'Australienne Barty qui remporte le titre. En football, le match le plus difficile des Bleus depuis leur titre de champion du monde, c'est tout à l'heure en Turquie pour les qualifications de l'Euro 2020. Retour vers le futur au Festival européen de l'innovation numérique et durable nous emmènera Christine Siméon dans sa vie connectée. Et puis une Pentecôte plutôt fraîche dans la moitié nord, des risques d'averses et même d'orages en vallée du Rhône, nous dira Jean-Michel Gonaski.
France Inter.
Au Sable d'Olonne, ils ont été nommés par Emmanuel Macron chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume. Ces hommes sont des héros, a écrit le chef de l'État sur Twitter en parlant bien sûr des trois sauveteurs de la SNSM qui se sont noyés en tentant de porter secours à un marin pêcheur en pleine tempête, un marin pêcheur en retraite dont le corps n'a pas été retrouvé. Je suis l'élu d'une ville en deuil, a lancé ce matin le maire des Sables d'Olonne. Et c'est un récit poignant qu'ont livré aux journalistes les sauveteurs rescapés du naufrage, Benjamin. Mathieu.
C'est les larmes aux yeux qu'il s'adresse aux journalistes. Deux des quatre survivants témoignent, dont David Bossard, qui pense très fort à ses trois camarades qui n'ont pas eu la chance, comme lui, de s'en sortir.
C'est surtout pour nos trois copains qu'ils n'ont pas eu cette putain d'étoile. Et voilà.
C'est à eux qu'il faut penser.
C'est à eux. Et moi, je pense à Yann, à Alain, à Dimitri.
C'est eux surtout.
Yann Chagnolo, Dimitri Moulic et Alain Guibert ne sont pas revenus. Des copains, pas des collègues, dit le président de la station de la SNSM des Sables d'Olonne, Christophe Monro, rescapé lui aussi avec son fils Jérôme et qui raconte ce qui s'est passé.
Les vitres ont cassé et après le bateau n'était plus manœuvrant. On essayait de tant bien que mal d'enlever l'eau, qui décoper l'eau qui est à l'intérieur, mais voilà, on partait à la dérive. Une déferlante est venue nous accoucher. Nous, on était sur le pont. On a été éjecté. Malheureusement, les quatre autres étaient à l'intérieur.
Seul un va s'en sortir, Emmanuel Hubé, transporté hier à l'hôpital mais qui est hors de danger. Xavier Delagorce, le président de la SNSM, très ému lui aussi, tient à rendre hommage à leur engagement sans faille.
Ils ne sont pas posés de questions, ils sont allés. Ils ont dit on y va. Malgré les conditions, malgré les risques, ils sont allés sans état d'âme. Et puis ça a tourné au drame. Ça fait partie des risques.
La douleur est immense ici, d'autant que ces trois sauveteurs étaient tous des pères de famille.
Benjamin Mathieu, pour le président de la SNSM, Xavier Delagorce, s'interdire les sorties en mer par gros temps ne serait pas réaliste. La mer, dit-il, c'est d'abord un espace de liberté. Direction Montpellier pour le 30e épisode des Gilets jaunes. C'est dans la préfecture de l'Hérault que s'étaient donné rendez-vous les irréductibles. 2000 manifestants selon les chiffres officiels, 5000 selon les organisateurs, qui se sont rassemblés sur la place de la Comédie en plein centre de Montpellier, où la situation s'est très vite tendue. Romane Porcon.
À peine le cortège parti de la place de la Comédie, les forces de l'ordre font usage du gaz lacrymogène et du canon à eau pour empêcher les gilets jaunes d'approcher la préfecture. Très vite, les terrasses se sont vidées, les commerçants ont baissé leurs rideaux. François, l'un des gilets jaunes, était au premier rang.
C'est scandaleux parce que j'étais à l'avant de la manifestation, les gens sont parfaitement pacifiques et on a été lamentablement chargés, arrosés, gazés, certains tapés. Je pense que c'est un avertissement de la police et du gouvernement pour nous calmer.
Il y a du lacrymo dans ce sens.
Les yeux rougis, Pascal et Laurence, elles, font demi-tour.
C'est violent, c'est inadmissible puisqu'on arrive, on n'a rien fait, on n'est même pas arrivé à hauteur de la préfecture que les gaz sont là.
Comme c'est un appel national, à mon avis, ils préfèrent nous faire taire en fin de compte, ils nous musellent.
Dans le cortège, une rumeur circule, Christophe Castaner serait présent à la préfecture, de quoi échauffer encore plus les manifestants pour Nicole.
La provocation de Castaner qui a dit qu'il n'y avait personne, là, on demande que pour Elton John alors. On lui a prouvé qu'aujourd'hui on était nombreux comme d'habitude. On a peur, mais on est là. Si tout le monde a peur, mais rien ne se passera. Certaines personnes ont obtenu quand même des primes. C'est déjà pas mal, mais c'est pas assez.
En début d'après-midi, des vitrines ont été cassées, des poubelles brûlées et au total, 11 personnes ont été interpellées.
Merci Macron.
Et au dernier bilan, il y aurait une dizaine de blessés de part et d'autre. À Dijon, où plusieurs centaines de manifestants s'étaient également rassemblés, on parle d'un CRS blessé, 12 personnes interpellées. En région parisienne, c'est en banlieue qu'un millier de gilets jaunes ont choisi de défiler direction Bobigny, où quelques échauffourées ont été signalées. En politique, une importante défection à la France Insoumise. Charlotte Girard, l'ancienne porte-parole des Insoumis à la présidentielle, annonce qu'elle quitte le mouvement dont elle s'était déjà mise en retrait. Celle qui fut un temps pressentie pour conduire la liste aux européennes met en avant la désorganisation des Insoumis, l'impossibilité d'y exprimer des désaccords et l'écart qui n'a pas été comblé, dit-elle, avec les gens. Consolider l'alliance Renault-Nissan, échaudée sans doute par le retrait du projet de fusion avec Fiat, le ministre de l'économie Bruno Le Maire reprend l'initiative en direction cette fois des Japonais, pour qui le mariage avec Renault n'est pas d'actualité, mais la France se dit prête à réduire sa part au capital du constructeur français. Pour justifier le retrait de sa proposition, le patron de Fiat, Chrysler, avait invoqué les exigences de Paris et le traitement trop politique du dossier. Pour Bruno Le Maire, il s'agit donc de rassurer les Japonais sur ce point. Pas vraiment réussi, comme l'explique Yann Rousseau, le correspondant du journal Les Échos au Japon.
Nissan a accueilli sans grand enthousiasme cette déclaration de Bruno Le Maire. Le groupe japonais ne se plaint pas du poids de l'État français dans le capital de Renault. Ce n'est pas vraiment son problème. Ce qui agace le constructeur, mais aussi le gouvernement de Tokyo, c'est l'activisme du pouvoir politique français. Si l'État était un actionnaire silencieux, ils n'auraient rien à redire. Ce qui les ennuie, c'est qu'ils ont l'impression que toutes les grandes décisions stratégiques sont prises à Bercy et pas à Boulogne-Billancourt, au siège de Renault. Donc ce n'est pas forcément comme cela que ça se passe dans la réalité, mais c'est la perception japonaise. Il faut se mettre à leur place. Toute la séquence de cette semaine, les tensions entre le gouvernement français et Fiat Chrysler, et même le fait que ce soit Bruno Le Maire qui parle de ce sujet de l'actionnariat plutôt que la direction de Renault, ça les renforce dans leur idée que le groupe français est aux mains des politiques. Et automatiquement, ça renforce la méfiance vis-à-vis du projet de fusion Renault-Nissan dont les Japonais ne veulent toujours pas entendre parler.
Le journal de 19h sur France Inter.
Aux États-Unis, voyez que ça paye la manière forte pour Donald Trump. L'accord conclu avec le Mexique hier sur l'immigration, c'est le résultat de sa politique de fermeté et des menaces économiques qu'il faisait peser sur son voisin du Sud. Le Mexique va faire beaucoup d'efforts, s'est réjoui sur Twitter le président américain. Et ce sera un grand succès pour nos deux pays. Grégory Phillips, reste à savoir ce que seront ces mesures promises par Mexico et comment on pourra mesurer leur efficacité.
Même si le plan n'est pas détaillé, le Mexique s'engage à prendre des mesures qualifiées de sans précédent pour endiguer le flot de migrants qui transitent par son territoire pour gagner l'Eldorado américain. Première mesure, le déploiement de la garde nationale mexicaine à la frontière sud pour empêcher les arrivées notamment du Guatemala. Deux, le Mexique s'engage à lutter contre les passeurs et les trafiquants. Trois, tous les migrants qui feront une demande d'asile aux États-Unis seront d'abord renvoyés du côté mexicain de la frontière en attendant l'examen de leur demande. Selon Donald Trump, tout ceci va permettre de réduire grandement, voire d'éliminer l'immigration illégale. Le président américain lève donc sa menace de tarifs qui devait entrer en vigueur lundi matin. L'opposition démocrate réagit. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, dénonce la violation des droits des demandeurs d'asile. Et Chuck Schumer, le patron de la minorité démocrate au Sénat, ironise. Donald Trump nous annonce la fin de l'immigration clandestine, dont acte, donc plus besoin de murs à la frontière. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Retour en France, à Paris, où plusieurs centaines de militants véganes ont défilé à l'appel de l'association anti-viande L214 pour demander la fermeture de tous les abattoirs. Ils étaient aussi des centaines à marcher pour l'océan, à l'appel cette fois d'une vingtaine d'associations. Toute première marche pour l'océan organisée à Paris, dans l'espoir bien sûr de sensibiliser au problème des plastiques. Et c'est justement pour se faire une idée plus précise de cette situation catastrophique que la célèbre goélette Tara repart tout à l'heure en mission pour au moins 6 mois sur les fleuves d'Europe. Les scientifiques embarqués à bord veulent identifier les sources de cette pollution plastique et réfléchir aux moyens de la stopper. Sophie Bécherel, la goélette devrait appareiller dans la soirée à Saint-Malo où elle aura été ce samedi l'une des attractions du festival Les Étonnants Voyageurs.
En effet, partager la connaissance, expliquer ses missions.
Là, c'est une mission qui va durer à peu près 6 mois. Il y a beaucoup, beaucoup d'escales et on va remonter 10 fleuves.
Marins ou scientifiques, tous les membres d'équipage jouent les guides sur Tara. Le succès public ne se dément pas. Jean-Pierre est soucieux de l'état de la mer et de la pollution plastique. Il est venu s'informer.
Je suis pêcheur plaisancier, donc c'est pour ça que ça m'intéresse. Pour voir déjà comment il est conçu et puis essayer de discuter avec les gens pour savoir ce qu'ils ont vu, fait. Et savoir où on en est surtout et les précautions qu'il faut prendre maintenant, quoi.
Depuis ce matin, le bateau a reçu 800 personnes, des fans, mais aussi des novices impressionnés par sa silhouette si particulière comme Patricia et Claude.
Il y a quand même une certaine admiration. L'intelligence de ce type de projet aussi est quelque chose d'important, mais est-ce que je suis impressionné, c'est peut-être pas le terme, mais... quand même, il y a une certaine admiration et peut-être une certaine reconnaissance aussi pour ce type de démarche.
Voilà, Jean-Pierre était particulièrement impressionné par cette plateforme scientifique installée il y a 11 ans sur la goélette qui depuis n'a cessé de sillonner les océans pour accumuler la connaissance, mieux comprendre le plancton, les coraux, la réaction des océans au réchauffement climatique et désormais la provenance du plastique, c'est sa mission. Et donc les visiteurs y sont nombreux. À Eric, le mot de la fin sur le pont ce matin, face à son regard envieux, je lui ai demandé s'il s'imaginait à la barre.
Ah, tout à fait. Tout à fait. On me propose, moi j'embarque ce soir là. Il n'y a pas de problème, je suis libre, dispo. Il y a besoin d'une femme de ménage, je le suis.
Voilà, Sophie Bécherel à Saint-Malo avec Fabien Gosset, en rappelant que les plastiques à usage unique, hein, type gobelet, seront interdits dans l'Union européenne d'ici 2 ans. 2 ouvriers tués sur un chantier d'Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis, ce matin, en intervention sur une façade. La nacelle sur laquelle ils se trouvaient s'est effondrée, ils sont morts sur le coup. Un incident en gare de Lille, un début de panique provoqué par quelques pétards que les voyageurs ont pris ce matin pour des explosions. Ce n'était que le départ en retraite d'un cheminot que les collègues ont voulu fêter comme il se doit. Mauvaise idée, très mauvaise idée en plein contexte Vigipirate. La SNCF précise qu'un rappel à l'ordre très ferme a été prononcé en interne. Les obsèques de Michel Serres, le philosophe décédé samedi dernier à l'âge de 88 ans, a été inhumé au cimetière de sa ville d'Agen, dans l'intimité de ses proches et de sa famille. En sport à Roland-Garros, c'est son premier titre en grand chelem. L'Australienne Ashleigh Barty a remporté tout à l'heure la finale féminine assez facilement en 2-7, 6-1, 6-3 face à la Tchèque Vondrousova. Et pour la finale masculine, demain, ce sera l'Autrichien Thiem qui fera face à Nadal. Le numéro 4 mondial est venu à bout du numéro 1 Djokovic à l'issue d'un match acharné 7-5 dans le 5e et dernier set, un peu plus de 4 heures de match, ce qui pourrait d'ailleurs se payer demain sur le court. Fabrice Abgral, en tout cas, Thiem, Nadal, ce sont les deux meilleurs joueurs actuels sur terre battue. Fabrice Abgral, il n'est pas là, Fabrice Abgral. Alors on va passer au foot et on retournera à Roland-Garros tout à l'heure. Le foot, c'est le dernier sommet de la saison pour les Bleus de Didier Deschamps. Tout à l'heure, match comptant pour les qualifs de l'Euro 2020. Ce sera peut-être le plus difficile de la série face aux Turcs chez eux à Konya en Anatolie devant un public réputé bouillant. La Turquie, c'est sans doute l'adversaire le plus costaud des champions du monde dans un groupe assez facile par ailleurs. Cédric Langrotte, en tout cas ce soir, c'est le test le plus important pour les Bleus depuis leur titre de l'année dernière.
Et oui, parce que les Bleus vont se retrouver, vous l'avez dit, déjà dans une ambiance qui ne sera pas simple. 42 000 spectateurs ici, le stade est tranquillement en train de se remplir et les organisateurs ont mis des drapeaux turcs sur chacun des 42 000 sièges du stade. Il y a aussi des grands drapeaux hissés sur le toit de cette Konya Stadium. Autant dire donc qu'il va y avoir beaucoup d'ambiance, une ambiance hostile. On n'est pas tout à fait tout de même au niveau des supporters stambouliotes, hein, avec ces trois clubs, notamment d'Istanbul, Galatasaray, Beşiktaş. C'est Fenerbahçe qui se livre une guerre aussi en tribune, mais il va y avoir beaucoup, beaucoup de bruit. Et puis, vous l'avez dit, en face, c'est la Turquie, l'autre adversaire invaincu pour l'instant dans ce groupe H de qualification, avec le même nombre de points, mais une différence de but favorable pour l'instant aux Bleus de Didier Deschamps. Une Turquie qui n'est que 39e au classement mondial de la FIFA, mais qui est en plein renouveau, qui a fait revenir son sélectionneur, qui lui avait permis son meilleur résultat. C'était lors de la Coupe du Monde 2002. Les Turcs avaient fini sur la 3e place du podium. Il va donc y avoir fort à faire ce soir, le premier gros choc, vous l'avez dit. Et puis l'idée, c'est évidemment d'entretenir la bonne dynamique. Depuis la fin du mondial à Moscou l'an dernier, les Bleus ont joué 9 matchs et ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était aux Pays-Bas.
Turquie-France, donc à 20h45. On rappelle qu'à la même heure hier, les Bleus ES ont fait une super audience, 11 millions de téléspectateurs au plus fort de la soirée pour leur match contre la Corée, record historique pour un match de football féminin. Allez, on repart à Roland-Garros. Fabrice Abgral, vous êtes là, bien là.
Bien sûr que je suis là.
Voilà, ben, vous n'étiez pas là il y a quelques secondes. Team Nadal.
Technique.
Hein. Team Nadal, donc demain en finale, les deux meilleurs joueurs actuels sur terre battue.
Ah oui, les deux meilleurs joueurs actuels sur terre battue. Reste à savoir maintenant comment Dominic Thiem va pouvoir récupérer des efforts qu'il a fournis aujourd'hui et hier hein, face à Novak Djokovic, puisque Dominic Thiem s'est imposé en 5-7 au terme d'un match de 4h20. Alors Dominic Thiem a dit en conférence de presse que ça ne lui posait pas de problème de jouer 3 jours d'affilée. L'Autrichien a joué 2 heures hier, 2 heures aujourd'hui, et comme il le rappelle très justement, cela arrive aux joueurs toutes les semaines. Alors oui, Nadal a eu un jour de repos supplémentaire, mais Nadal a 33 ans et Thiem en a 24. Du coup, dit-il, tout ça, ça s'annule. Alors évidemment, ça peut se jouer demain sur la récupération, mais aussi sur le physique. Mais ce sera surtout un match tactique entre les deux meilleurs joueurs du monde sur terre battue. Mais le meilleur, c'est Nadal. L'Espagnol n'a perdu, rendez-vous compte, que 2 des 94 matchs qu'il a disputés à Roland-Garros depuis son premier titre en 2005. Demain, Nadal visera un 12e titre porte d'Auteuil en autant de finales disputées. Dominic Thiem mesure évidemment l'ampleur de la tâche qui l'attend. Ce sera la revanche de la finale de l'an passé, remportée aisément à l'époque en 3 petits sets par Rafael Nadal. Ce sera leur 13e confrontation. Thiem l'a emporté à 4 reprises seulement, mais à chaque fois sur terre battue, dont la dernière au mois d'avril en demi-finale à Barcelone. Thiem est donc armé pour battre Nadal en 2-7 gagnant, mais c'est moins sûr au meilleur des 5-7 où là Nadal semble indestructible à Roland-Garros.
Fabrice Abgral, qu'on finit toujours par joindre à Roland-Garros. Il y a du rugby également ce soir. Première demi-finale du top 14, Stade Toulousain-La Rochelle, c'est à Bordeaux. À Bordeaux où se jouera aussi demain l'autre demi-finale, Lyon-Clermont. Allez, quel futur souhaitons-nous vraiment? C'est à cette question que tentera de répondre le festival Futur ES qui se déroule à Paris jeudi et vendredi prochain. Festival européen de l'innovation numérique et durable. Bonsoir Christine Siméon.
Bonsoir.
Chaque année, Futur ES, depuis 10 ans, se demande ce que sera demain.
Eh bien écoutez, par certains aspects, ce festival me fait un peu penser au salon des arts ménagers dans les années 50. Je vous ai fait un petit montage audio, écoutez ça.
Les poêles, comme ces tout derniers modèles à charbon liquide, vite oubliés d'ailleurs devant la machine à laver ou les mouchoirs, passent aussi le mur de son. Verra-t-on la dernière cireuse automatique ? L'emploi de la nouvelle éponge en matière plastique inaltérable, ou même encore l'utilisation rationnelle du papier essuie-tout, tous les petits génies du foyer se mettent au service de la maîtresse de maison et où chacune aimerait vivre demain.
Voilà, c'était le bon temps où tous les problèmes allaient être résolus. Poêle à charbon, machine à laver, toutes ces avancées ont un jour annoncé une vie meilleure et merveilleuse. Aujourd'hui, c'est presque la même chose. Il y a une application pour chaque problème, les devoirs, le sport, la santé, et quand je consulte le programme de Futur, je trouve par exemple le système qui va proposer de la musique composée par une intelligence artificielle en direct et selon les besoins du moment. Je trouve le poulailler installé en ville avec des poules qui se nourrissent de mes déchets et me font livrer des œufs frais commandés sur Internet à la demande. Bref, je rêve. Et là, la directrice de Futur vient taper sur mon épaule et me dit ceci.
Le numérique n'est pas le monde des solutions et ce serait très dangereux, je pense, de penser le numérique comme un pur solutionnisme.
Un solutionnisme. Futur, c'est de l'innovation, mais ce ne sont pas des miracles donc, et c'est aussi un regard critique sur l'impact du numérique dans nos vies.
Le numérique pose autant de problèmes qu'il en résout. Fake news, ubérisation sont ces petits monstres. Et le Festival Futur cherche donc des inventions qui rendent, par exemple, la ville durable. Écoutez Hélène Alain, justement la directrice de Futur.
Par exemple, on pourrait penser que le numérique côté très technologique pourrait résoudre des questions de distribution de l'eau, de gestion des déchets. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de solutions qui sont locales, qui ont déjà été trouvées en fait, et où le numérique permet simplement de la distribution plus simple en fait de ces solutions low-tech. Et en fait, dans les 80 démos qu'on a vraiment soigneusement sélectionnées, on n'a pas uniquement la notion d'environnement, mais on a aussi tout ce qui est solution de maintien à domicile de personnes âgées pour pouvoir peut-être mieux vieillir. On a l'accès à de la formation en pair à pair ou de la formation en autonomie. On a un accès facilité à la culture. Et pour nous, tout ça, ce sont des piliers des villes durables. Ce n'est pas uniquement de l'environnement ou de la gestion de l'eau et des déchets.
Partageable par tous, sans exclusion. Des trucs qui nous aident vraiment, des transports plus faciles, sans mettre les chauffeurs sur la paille, par exemple, c'est totalement anti-ubérisation, tout ça. Une posture tout à fait assumée. Je vous conseille d'aller faire un tour chez Futur.
Chez Futur et dans le futur, les 13 et 14 juin à Paris, manufacture des gobelins. Le temps.
La météo
avec les cafés Malongo, Grand Cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Jean-Michel Golinski.
Des températures fraîches pour ce week-end de la Pentecôte dans la moitié nord du pays, avec 16 à 17 degrés demain après-midi sur les côtes de la Manche, une vingtaine sur les rives de la Loire et du bassin parisien aux Ardennes, des valeurs plus confortables en allant vers le sud et l'est, jusqu'à 25 degrés sur la Lorraine et au sud de la Garonne, et 27 à 30 demain et lundi sur le bassin méditerranéen, alors qu'en début de semaine, les valeurs vont perdre jusqu'à 5 degrés dans le quart sud-ouest. Demain, le vent va commencer à monter en Méditerranée, apportant pas mal de nuages et des ondées du golfe du Lion à la Provence et sur la Corse. Un temps identique sur le reste du pays, c'est-à-dire très variable, avec un risque d'averses et même d'orages, en particulier à l'est du Rhône. Lundi, persistance du ciel variable et incertain sur la plupart des régions, sauf près de la Méditerranée, où le vent qui va passer au nord va chasser les nuages.